Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet intéressant, qui est les noms de la fête de Pessah. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui avec les noms de la fête de Pessah? Ben, la fête de Pessah s'appelle Pessah. Vous allez voir que Bezrat Hashem, on va voir que la fête de Pessah a trois noms. C'est un petit peu comme si je vous disais que Purim avait trois noms, ou que Hanouka avait trois noms. Il n'y a pas Hanouka, il y a un nom. Purim, il y a un nom. Sukkot a un nom. Et là, on va voir que la fête de Pessah, dans la Torah, a trois noms. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors évidemment, on va essayer de retrouver la trace historique, c'est-à-dire d'où sont venus ces trois noms, pourquoi il y a un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Et surtout, on va essayer d'expliquer le sens profond. D'où provient cette différence? Pourquoi il y a trois noms? S'il y a trois noms, c'est que forcément, chaque nom a un message. On est d'accord? Donc d'abord, on va s'arrêter sur l'aspect historique. La fête de Pessah est une fête qui a trois noms. C'est quoi les trois noms? Alors très bien, vous allez voir. Premier nom, c'est le nom qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas le mot Pessah. Non, attendez, Shiva Yamim, 7 jours. Là, la Torah, il est écrit. Vous avez le pasouk devant vous, juste en dessous. Parashat, donc Mishpatim, référence numéro 1. Il est écrit Et Chag HaMatzot Tishmor. La fête des Matzot,
tu observeras.
Voilà. Donc, dans la Torah, comment s'appelle la fête de Pessah? S'appelle la fête de Matzot. Ok? En français, ça donnerait la fête des azimes. Bon, ben, ok. Ah oui, c'est ça, la fête des matzot.
Des azimes, oui, mais...
Ensuite, si vous voyez dans le texte du Sidour, le texte du Sidour qui a été instauré, alors c'est intéressant, le texte du Sidour a été instauré par les Anshei Knesset HaGedola. Anshei Knesset HaGedola, ça date de l'époque de Ezra le scribe. Donc c'est encore avant l'époque de la Mishnah, avant l'époque de la Gemara. Donc c'est deuxième génération. Ça veut dire d'abord, il y a la Torah écrite. Dans la Torah écrite, comment elle s'appelle? Fête des Matzot. Ensuite, quelques générations plus tard, lorsque Ezra le scribe a organisé le retour à Jérusalem pour le second temple, donc c'est bien avant l'époque de la Mishnah, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là qu'il a rassemblé le peuple et il a dit, bon, on va créer un texte pour tout le monde, pour le Sidour. Et dans le Sidour, dans le livre de prière, qu'est-ce qu'il a instauré? Comment il appelait? Regardez, vous allez voir, le texte va vous dire quelque chose. On le dit dans le Kiddush, on le dit dans le Sidour. Vatiten lanu Hashem elokeinu be'ahava. Dieu, tu nous as donné par amour, d'accord? Et Yom Chag HaMatzot, le jour de la fête des Matzot, donc ça c'est comme dans la Torah, Zman Chérutenu, temps de notre liberté. Donc vous voyez, il a répété fête des Matzot, comme dans la Torah écrite, mais il a rajouté temps de notre liberté. Donc là, il y a un nouveau message. Avant, on parlait de Matzot. Bon, la fête des Matzot. Ah, très bien, la fête des Matzot. Avant, on parlait de Matzot. Mais dans la Torah écrite, vous ne trouverez aucune mention du temps de la liberté. Aucune. La notion de temps de la liberté a été rajoutée par Ezra le scribe et par son assemblée à l'époque de la construction, enfin en tout cas autour de la construction du second temple. Et c'est là qu'on a rajouté la notion de Zman Chérutenu, temps de notre liberté. Ok? Pour l'instant, on raconte que les faits. Hein, on n'explique pas pourquoi. Déjà, il faut comprendre les faits. Et enfin, si je vous demande à vous comment on appelle Pessah?
Pessah.
Où on trouve ce nom Pessah? Pessah, on le retrouve dans la Gemara, et c'est le nom qui est accepté aussi par le peuple, c'est notre nom, d'accord? Et d'où on a tiré ce nom? Alors ce nom, est, comme tu dis, il vient de la Gada aussi, d'où vient ce nom? Ce nom est basé sur un verset. Le verset qui nous dit dans la Parashat Bo, « Asher Pessah al-Bate b'nei Israël b'mitzraïm » que Dieu sauta, Pessah, ça veut dire sauta, « Al-Bate b'nei Israël » sur les maisons d'Israël, des enfants d'Israël, « b'mitzraïm » en Égypte, d'accord, « b'nokpo et mitzraïm » en frappant en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Torah elle-même n'a pas appelé cette fête la fête de Pessah. Mais nous, on l'a appelé Pessah, parce qu'on dit oui, comme il y a un terme qui nous a marqué, c'est qu'on dit que Dieu, lors de la plaie des 10 premiers-nés, la 10e plaie qui était la plaie des premiers-nés, Dieu a sauté sur les maisons juives, il a frappé les maisons égyptiennes, et il sautait sur les maisons juives dans lesquelles il n'a pas frappé justement. Donc on a retenu, on a dit, ah, Pessah. Donc on dit, bah, Pessah sauter. Donc du coup, on l'appelle Chag HaPessah. Alors là, je vais vous choquer un petit peu, mais si je traduis Pessah, Chag HaPessah, la fête de Pessah.
La fête du sauter.
La fête du saut.
Moi, j'avais entendu à l'époque, dans un texte, j'avais lu dans un texte, c'était le passage.
Alors non, ben, passage, c'est gentil. C'est pas la bonne traduction.
C'est ce qui se passe.
Ça veut dire que là, j'ai trois définitions, trois termes. La fête des azimes, le temps de la liberté, et la fête du sceau.
C'est un changement d'état, en fait.
Alors je me dis, attends, quand même, je sais pas, pourri, il a pas changé de nom. Les sophètes n'ont pas changé de nom. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Pessah change de nom? Et en plus, c'est pas seulement un changement de nom. Bonsoir. On change carrément de concept. C'est pas la même chose. Là, tu me parles de matzah, là, tu me parles de liberté, là, tu me parles de sceau. Pourquoi trois noms?
Il y a trois étapes, peut-être.
Ouais, David.
Alors, oui, Monsieur Akos nous dit.
C'est la troisième étape, oui.
Monsieur Akos nous dit, peut-être que ces trois noms correspondent à trois étapes. Vous remarquez bien qu'il y a un ordre. Volontairement, je vous ai montré cet ordre. Vous savez que dans la Torah, même l'ordre est un enseignement. C'est son avis, il dit, bon, bah, écoute, Mandy, peut-être à l'époque, il appelait la fête des matzot, etc. Nous, aujourd'hui. Ça s'appelle Pessah, c'est tout, point barre. Tu vas pas nous la faire, non? Tu vas pas nous. Non! Seulement, ce que je vous montrais par ici, c'est que non. Même aujourd'hui, il est important de se rappeler de cet ordre. D'abord, la fête des matzot. Après, le temps de la liberté. Et après, la fête du sceau. Puisque vous allez comprendre que même aujourd'hui, on est concerné. Attendez, laisse-moi parler. Même aujourd'hui, nous sommes concernés par ces trois étapes, qui sont les trois étapes, Rabotaï.
Mais elles sont pas dans l'ordre.
Monsieur Benita, je peux finir de parler. Ils sont les trois étapes qui nous permettent de comprendre aujourd'hui un enseignement de notre vie de tous les jours. Ça veut dire, en d'autres termes, pour être un peu plus clair, si le nom de la fête a été modifié à deux reprises, et donc nous avons trois noms, c'est qu'en fait, cette fête, comme a dit Monsieur Akos, est composée de trois étapes. Et donc chacun des trois noms correspond à une des étapes, et aujourd'hui encore, en 2017, 5077, on peut retrouver ces trois étapes. Donc le but du cours maintenant, la suite du cours, c'était juste une introduction.
Et c'est juste inversé chronologiquement. Parce que d'abord, il y a d'abord les matzot, après on est libre, et après on parle de sceau. En réalité, dans la chronologie, c'est d'abord le sceau, après les matzot, et après on est libre.
Voilà. Très bien. Alors, je ne vais pas suivre l'ordre. Comment ça s'est passé chronologiquement? Je vais suivre l'ordre, comment nous, on l'a nommé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en 2448, tu demandais à un juif, quelle fête on va célébrer? Je vais célébrer la fête des Matzot. Ensuite, 1000 ans plus tard, d'accord? Tu demandais à un juif, tu lui dis, qu'est-ce qu'on va célébrer comme fête? Il te répondait, je vais célébrer la fête de la liberté. Et 1000 ans plus tard, tu demandes encore à un juif, qu'est-ce qu'on va célébrer comme fête? Je vais célébrer la fête de Pessah. Alors le rabbi pose une question, il dit, mais attends, mince. C'est quoi cette histoire? Vous connaissez, vous, beaucoup des fêtes qui changent de nom tous les 1000 ans?
Shavuot.
Non, même Shavuot.
Mais il y en a deux, non?
Ah non, Shavuot, c'est écrit dans la Torah, Chag Shavuot.
Et l'autre?
Non.
Chaga Bikurim.
La Torah l'a appelé aussi Chaga Bikurim, mais la Torah a déjà appelé les deux noms. Ça veut dire qu'à l'époque, en 2448, à la sortie d'Égypte, tu posais la question à un juif, comment s'appelle la fête de Shavuot? Il disait, écoute, la Torah m'a donné deux noms, la fête de Shavuot, la fête des prémices. Déjà, dans la Torah a appelé les deux. Mais là, tu t'imagines, en 2448 à la sortie d'Égypte, c'est la fête des Matzot. 1000 ans plus tard, c'est la fête des libertés. 1000 ans plus tard, c'est la fête de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Donc ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est qu'en fait, ces trois noms, dans cet ordre, correspondent à trois étapes. D'accord? Alors pour expliquer à quelle étape, donc je pense que vous avez posé votre question, d'accord?
Bah, c'est la même question.
Très bien. Alors, pour répondre à cette question, pour expliquer l'ordre, on va essayer de développer qu'est-ce qui s'est passé finalement à la sortie d'Égypte. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de tellement important à célébrer?
La liberté.
On va voir. Vous vous dites la liberté, on va voir. Et on va voir qu'une fois qu'on aura compris ce concept, on comprendra comment ce concept est composé de trois étapes. Et ces trois étapes, vous les retrouverez dans votre vie, dans notre vie, dans l'éducation de nos enfants et partout. Trois étapes. Toujours trois. On va expliquer les trois. Alors, référence numéro 2. Quel est l'enjeu réel de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, au-delà de l'aspect technique,
c'est la promesse d'Abraham.
On est sorti d'Égypte, d'accord.
La promesse d'Abraham.
Attendez, excusez-moi, juste, je vais développer. Au-delà de l'aspect technique, que bon, on était bloqué en Égypte, on est sorti. Bon, d'accord, ça, d'accord, on était bloqué, on est sorti. Au-delà de l'aspect prison, on était en prison, on est sorti. Pourquoi c'est tellement important au point que vous remarquerez dans chaque prière, Zecher, Letziat, Mitzrayim, tout le temps. Il n'y a pas une prière que vous faites dans laquelle vous ne parlez pas de la fête d'Égypte. C'est fou.
Même dans le schéma, à la fin, il y a...
Partout, schéma, kidouche, tout le temps. Même le kidouche, tu dis, fin que je vendredi soir, tu dis ça, hein, tu parles de la création du monde, Dieu le vendredi a créé, etc. Zapak, Zerel et Set Mitzrayim, pas qu'on l'a inséré. Quel rapport? Pourquoi tu parles de la sortie d'Égypte? C'est une question que pose le Maharal de Prague. Alors, donc on peut pas dire que la sortie d'Égypte, c'est simplement un détail technique, qu'on était emprisonné, qu'on est sorti de prison. Bon, il y a Al Capone, il est en prison, il est sorti de prison. D'accord. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire qu'au-delà de... C'est vrai qu'on dit que c'est la sortie d'Égypte, mais il y a un événement. C'est un événement qui s'est passé. Alors c'est quoi cet événement? En fait, le prophète Ézéchiel va définir cet événement en quatre mots. Quatre mots qu'on va devoir développer pendant un cours entier. Le prophète Ézéchiel nous dit, dans la référence numéro 2, « Umolatecha beyom huledet otach ». Ta naissance, il s'adresse à Israël et il lui dit ta naissance, le jour où tu fus enfanté. Et il nous dit, le commandant de Rachid dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi quel jour le peuple juif est né? Alors, il y en a qui vont me répondre en 1948, pour répondre ce que vous voulez, mais non, pas du tout. Quel jour le peuple juif est né? Il y en a qui vont me répondre, c'est à la naissance d'Abraham. Il y en a qui vont me répondre, c'est le jour où Abraham a venu, il a fait sa brit mila. Il y en a qui vont me répondre, c'est le jour où on est venu en Égypte. Il y en a qui vont me répondre, c'est le jour où on a reçu la Torah. Non. Faux. Faux. Réponse de Rashi. Keshebacharti becha bemitzrayim. C'est lorsque je t'ai, me dit Rashi, lorsque je t'ai choisi en Égypte. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, au-delà de l'aspect technique qu'on est sorti d'Égypte, c'est la naissance d'un nouveau peuple.
Là, d'un peuple.
Ça veut dire que, c'est pas seulement qu'on est devenu un peuple, parce qu'on n'est pas les seuls à être devenu un peuple. Il y a d'autres nations qui sont devenues un peuple. Le peuple français est bien devenu un jour le peuple français. Et un jour, les Latins, les Gaulois, ce que vous voulez, ils sont devenus un peuple. Seulement, comme on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on parle de la naissance d'un peuple, pour nous, c'est pas seulement la naissance d'un peuple, parce qu'on s'est fini, à partir de maintenant, on est devenu un peuple. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. On est devenu une nouvelle entité. Et vous allez voir que ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un Français est français?
Il est né en France,
ou bien
de père.
Il est naturalisé français, ou bien
de père, de
il est de père ou de mère français, et encore, d'accord, ou bien il parle français, ou bien il a une culture française, très bien. Maintenant, imaginons, je vous pose la même question, je vous dis, qu'est-ce qui fait qu'un juif est juif? Est-ce qu'il faut qu'il habite les terres d'Israël?
Non.
Est-ce qu'il faut qu'il respecte la Torah?
Oui. Non.
Ah oui,
d'accord. Attendez, est-ce qu'il faut qu'il respecte la Torah?
Non.
D'accord. Est-ce qu'il faut qu'il respecte les mitzvot?
Non.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut qu'il parle hébreu? Attendez, est-ce qu'il faut qu'il parle hébreu?
Non.
Alors qu'est-ce qu'il fait qu'il est juif? En quoi il est juif? C'est-à-dire, je vais aller voir un juif. Non, mais attendez, je suis sérieux. Je vais aller voir un juif qui est malheureusement très très loin. Et je vais lui dire, monsieur, vous êtes juif. Il va me dire, mais en quoi je suis juif? En quoi je suis juif? Et il a raison, c'est une bonne question qu'il pose. En quoi je suis juif? Pourquoi tu me dis que je suis juif? Ça veut dire quoi être juif? Être français, ça veut dire avoir une culture française, avoir une langue française, avoir un pays français. Je dis pas qu'on n'a pas de pays. On a un pays des juifs. On a une langue des juifs. On a une culture des juifs. Mais c'est pas ça ce qui fait qu'on est juif. C'est pas ça ce qui fait qu'on est juif. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, qu'on va développer dans le cours d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Parce que, encore une fois, lorsqu'on sort d'Égypte, pourquoi on n'arrête pas de parler dans tous les kidouches, Zecher et Tzet Mitzrayim, Zecher et Tzet Mitzrayim? Parce qu'il faut bien comprendre que si on est juif aujourd'hui, c'est grâce à la sortie d'Égypte. Sans la sortie d'Égypte, on aurait appartenu peut-être à un pays, à une langue, à une patrie, à une culture. Mais le jour où tu appartiens plus à cette culture, où tu appartiens plus à ce pays, où tu appartiens plus à cette langue, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore juif? C'est justement grâce à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il s'est passé quelque chose. À la sortie d'Égypte, Dieu nous a donné, il nous a créé une nouvelle entité, une entité qui est indélébile, de laquelle on ne pourra jamais se détacher, qui est même au-delà de la notion de patrie, de la notion de religion. Je ne peux même pas dire religion. Aujourd'hui, on dit de religion juive. Est-ce que être juif, ça veut dire qu'on est de religion juive? Non. Je ne peux même pas dire que c'est une religion, le judaïsme. Je ne peux même pas dire que le judaïsme est une religion. Parce que si tu dis que c'est une religion, c'est-à-dire celui qui n'est pas religieux, il ne l'est pas. Ah bah oui. Tu peux pas être, la ville, excusez-moi, que Dieu me pardonne. Tu peux pas être chrétien sans être religieux. Celui qui fait rien du tout, mais qui dit je suis chrétien. Mais il va jamais à l'église, il va jamais, quoi que ce soit, il fait rien du tout, il fait aucune pratique. On lui dit, bah, t'es pas chrétien.
Si
Hein?
Ah non,
il appartient
à... Oh, non, attends.
À la nation chrétienne.
Il faut qu'il fasse quelque chose. Il va célébrer le jour de l'an, il va célébrer quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose, parce que s'il fait rien du tout, et il a aucune religion, dans ce cas-là, il ne suit pas la religion chrétienne.
Il a été baptisé.
Ah, baptisé, d'accord. Oh, oui, d'accord, mais concrètement, il est quoi? Il fait quoi? Ça veut dire, je peux même pas dire que le judaïsme est une religion. C'est vrai que dans les papiers, ça s'appelle une religion, mais c'est même pas une religion. Parce que ça ne dépend pas de la religion. Être juif, c'est encore plus fort que la religion. Il faut être religieux. Un juif doit être religieux. Il a des mitzvot. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose de beaucoup plus profond qui est ancré en nous. Et c'est ça, c'est ce qui se passe lorsque Kadosh Baruch Hu va nous créer. Donc, en tant que peuple, à ce moment-là. Alors, le prophète Ézéchiel l'a dit en quatre mots. Nous, on va essayer de le faire en un cours entier, parce que c'est très profond ce qu'a dit le prophète Ézéchiel. Vous savez, le prophète Ézéchiel, c'est des prophéties. Prophétie, c'est pas tu prends, tu crois, tu l'as comprise. Prophétie, c'est un cliché. Un cliché, tac, quatre mots. Après, faut repasser. Faut repasser pour comprendre. Donc, qu'est-ce que nous apprend le prophète Ézéchiel? Le prophète Ézéchiel nous apprend un grand principe. Il nous dit, ne crois pas que la sortie d'Égypte, c'est juste le jour où on est sorti d'Égypte. Avant, on était dans un endroit géographique qui s'appelait l'Égypte, et on est sorti. Ça, c'est technique, ça. C'est technique. La sortie d'Égypte, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la sortie d'Égypte, il y a un message. Alors, quel est ce message? Alors, en fait, pour répondre à cette question, on va passer à la référence numéro 3. Parce que Dieu nous a donné le plan. Il ne faut pas aller chercher loin. Dieu nous a donné le plan. Dans la paracha Shemot, avant même que Moïse est venu voir Paro pour nous faire sortir, avant même, Dieu a annoncé le plan à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vas aller en Égypte. Moïse n'était pas en Égypte. Il lui a dit, tu vas aller en Égypte. Sur le buisson ardent. Tu vas aller en Égypte. Et tu vas aller libérer le peuple. Et le jour où tu feras sortir ce peuple d'Égypte, qu'est-ce que dit le pasouk? Référence numéro 3. Beotziacha et ta'am et mitzraim. Lorsque tu feras sortir ce peuple, donc le peuple d'Égypte, ta'avdun et ta'elokim al ha'ar azé, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire quoi? Très fort ce qu'on dit ici. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu a annoncé le programme que le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de recevoir la Torah. Et Rabbi Saadia Gaon développe un concept très intéressant qu'on va expliquer maintenant. Il nous dit, dans le livre, vous savez, Rabbi Saadia Gaon est un des plus grands penseurs juifs. Un des premiers penseurs juifs. Et Rabbi Saadia Gaon, dans la référence numéro 3, il donne une phrase très puissante. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Oumatenu, donc au passage, pour ceux qui veulent des références, Rabbi Saadia Gaon, c'est, si je prends l'air vulgaire, l'an 882. Donc, c'est un bout de temps. D'accord?
Hein?
Ah, ça fait un petit bout de temps. Il vient recalculer, il va me donner une date.
Non, 882.
Moins
882.
Moins 882.
Non,
887.
Il est né en Égypte. Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon. Non, il reste à dire que c'est l'Égypte. En tout cas, il est né en Égypte. Rabbi Saadia Gaon nous dit la chose suivante. Il nous dit que, Rabotai, Oumatenu, notre nation, Enena Uma, n'est une nation qui imbetorotea que par sa Torah. Là, attention, il faut qu'on développe. Ça veut dire comme ça. Rappelez-vous la question que je vous ai posée tout à l'heure. Chaque nation a quelque chose qui la caractérise. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un Français est français, comme je dis? Parce que, par exemple, il va parler français, ou bien il va habiter en France. Bon, c'est ce qui définit la nation française. Chaque nation a quelque chose qui la définit. Une langue spécifique, un pays spécifique, etc. Maintenant, les juifs. Prenez un juif de France, un juif d'Amérique, un juif d'Israël, un juif d'Australie. Ils parlent la même langue?
Non.
Non. Ils habitent le même pays?
Non.
Non plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qui définit? Comment tu peux dire que les deux, ils sont juifs? Qu'est-ce qui les définit? Qu'est-ce qui définit? C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi lui, il est juif et moi, je suis juif? On n'est pas les mêmes. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de réfléchir, on n'a pas la même langue, on parle même pas, la majorité ne parle même pas hébreu. C'est la réalité.
Oui, mais...
La majorité des juifs américains ne parlent pas hébreu. La majorité des juifs français ne parlent pas hébreu. On est d'accord?
D'accord. Pour les autres.
Alors attendez. Non, mais la majorité des français parlent français.
Oui, mais il peut être en Australie. Non, mais,
monsieur Benita, si je vais avoir ce qu'on appelle un dénominateur commun de tous les français, qu'est-ce que je vais trouver?
La langue.
La langue, ils parlent français. C'est tout.
C'est le premier dénominateur.
C'est la langue. La langue. Au moins le pays. Comment les États-Unis, peut-être qu'ils ont d'abord la même langue, même s'ils n'ont pas exactement la même langue, mais ils ont un pays, il y a un dénominateur commun. Il y a la langue, il y a le pays, il y a quelque chose. Il y a un État qui les regroupe.
Bon, à notre décharge,
quel rapport, quel rapport,
ans qu'on n'a pas tous vécu ensemble.
Ah ben justement, justement, quel rapport entre moi et un juif d'Australie? Pourquoi quand je le rencontre, je me sens que je suis lié avec lui? Répond Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon dit, notre nation est une nation que par sa Torah. C'est-à-dire que le rapport entre le juif d'Australie, le juif d'Amérique, le juif de France et le juif d'Israël, quel est le rapport entre les quatre? C'est que les quatre, leur définition, c'est que c'est une nation de Torah. Et c'est ça ce qui s'est passé, ça c'est la grande nouveauté qu'il y a au don de la Torah, qu'il y a, pardon, à la sortie d'Égypte. C'est pas seulement le fait que Dieu dit, bon ben écoutez, avant que vous étiez dans l'impureté de l'Égypte, vous êtes sortis. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement techniquement, on était en prison, on est sortis de tôle. Enfin, c'est pas de la tôle, on était en esclavage. On est sorti de l'esclavage. C'est beaucoup plus que ça. C'est que Dieu nous a changé de profil. Il nous a changé notre essence. Avant, ce qui nous définissait, c'est qu'on parlait la même langue. Vous savez qu'en Égypte, le juif parlait tous hébreu. C'est-à-dire qu'avant, avant 2448, tu viens un an avant, 2447, tu vas voir un juif égyptien. Tu lui dis, qu'est-ce qui fait que t'es juif? Et il dit, bah, c'est très simple. Voilà, j'ai mon nom, c'est un nom juif. J'ai ma langue, c'est la langue juive. Et j'ai mon vêtement, c'est un vêtement juif. J'enlève un, deux, trois, c'est fini, je suis plus juif. Dieu, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, il a dit maintenant vous allez subir une transformation. Maintenant, vous allez tous subir une transformation. Il y a un nouveau peuple qui va naître. Pourquoi il y a un nouveau peuple? Pourquoi avant on ne parlait pas hébreu? On n'avait pas les vêtements des juifs? On n'avait pas les noms des juifs? Non. Avant, vous étiez une nation comme toutes les autres. Vous aviez un dénominateur commun. La langue, les vêtements, d'accord? La culture, le nom. Ça, c'est un dénominateur commun. Maintenant, votre dénominateur commun va être complètement nouveau. Nouvelle chose. Ce qui va vous définir, c'est que vous allez être défini par une nation de Torah. Et c'est pour ça, Dieu, il fallait voir, Dieu l'a annoncé dans le programme. Il l'a annoncé à Dieu. Dieu, avant même que Moshe Rabbeinu est parti parler à Pharaon, il a dit, voilà le programme, tu vas aller parler à Pharaon, et lorsque tu feras sortir les Juifs, vous servirez Dieu sur cette montagne. La montagne sur laquelle il y avait le buisson ardent. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a annoncé le programme, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que maintenant, on va se transformer à être une nouvelle entité, une entité qui est bien plus profonde que ce qu'on pourrait penser. Et c'est ça en vérité la grande nouveauté de la sortie d'Égypte. Seulement, vous comprenez que pour arriver à une situation comme ça, pour réussir à devenir une nation de Torah, alors qu'on était des esclaves, qu'on était des gens qui étaient complètement à côté de la plaque, qu'on était idolâtres au passage. Hein. D'accord? Ça, il faut du chemin pour faire ça. Pourquoi il faut du chemin? Parce qu'il faut du chemin. Tu comprends, quand tu as une nation qui parle peut-être hébreu, qui a un nom juif, un nom, d'accord, N-O-M, qui a un nom juif, mais qui a un vêtement juif, d'accord, ça ne fait pas des juifs. C'est pas ça, les juifs. Le judaïsme, c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est une nation qui est une nation par sa Torah. Alors, comment Akadosh Baruch Hu va faire? Akadosh Baruch Hu, il a un plan en trois étapes. Pour réussir à transformer les juifs égyptiens en juifs tout court, en juif de Torah, homme de Torah, Dieu va passer par trois étapes. Maintenant, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'abord d'expliquer ces trois étapes, quelles sont ces trois étapes, et après, de montrer comment ces trois étapes correspondent aux trois noms de la fête. Vous êtes prêts? Voilà. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'on a vu depuis le début du cours, c'est pour arriver là. Pour expliquer trois noms dans la fête, dans un ordre spécifique. Fête des Matzot, temps de la liberté, Pessah, trois noms bien spécifiques. Pourquoi trois noms? Parce qu'en fait, les trois noms vont correspondre aux trois étapes qui étaient nécessaires et qui étaient indispensables pour transformer nouvelle naissance. De la même façon qu'un bébé ne peut pas naître en un jour. Il y a 9 mois. Il y a une transformation progressive. Alors là, c'est pas 9 mois. Là, c'est 3 étapes. 3 étapes pour transformer le Ham Israël du statut dans lequel ils étaient en Égypte, pour les transformer en une nation de Torah. Et c'est un statut qui ne les quittera pas. Ça veut dire que même aujourd'hui, même si un juif te dit « je suis pas religieux, je pratique pas, je fais rien », ça ne change pas que le fait qu'il est juif, en quoi il est juif? Parce qu'il appartient à une nation de Torah. Même s'il ne la fait pas, la Torah. Peut-être qu'il ne la fait pas. Que tu ne la fais pas, tu ne la fais pas. Mais le dénominateur commun de tous les juifs, qu'est-ce qui nous réunit? C'est le fait qu'on passe par la Torah. Alors ça, il faut qu'on développe un peu plus. J'aimerais maintenant m'arrêter sur les 3 étapes.
Mais dans juste cet ordre-là précis.
Ah, attends, on va voir, attendez, oui. On va développer.
Non, mais dans un autre cours, vous avez dit que le juif, c'est un neshama, il a une neshama spéciale.
Attendez, je vais expliquer. Là, on est dans la création. Non, mais ça, vous comprenez, c'est-à-dire que là maintenant, Dieu va créer un nouveau concept qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui n'a jamais existé.
Du fait qu'il n'y avait pas la Torah.
Du fait qu'il n'y avait pas la Torah, exactement. C'est-à-dire que même Abraham, il n'était pas comme ça. Même Abraham, il n'était pas défini Abraham par la Torah. Il est défini Abraham comme serviteur de Dieu, comme etc. Là, on va créer une nouvelle entité qui n'existait pas. Une nouvelle notion de ce que peut être une nation, qui est d'ailleurs unique. Unique. Toutes les autres nations, ils ont tout un dénominateur commun. Là, Dieu va dire, vous n'aurez pas de dénominateur commun par la langue. C'est même pas la langue. C'est pas la langue, c'est pas le pays, c'est pas les vêtements, c'est pas la culture. C'est pas ça. On va toucher autre chose. Votre dénominateur commun sera la Torah. Alors, pour arriver à ça, prendre un peuple qui est idolâtre et transformer un ça, on doit passer par trois étapes. Pour expliquer pourquoi il faut passer par trois étapes, on va prendre un exemple d'un élève.
Un élève,
d'accord, qui est assis devant son maître. Et son maître essaie de lui faire passer un message. Un message profond. Une idée compliquée. D'accord? Alors, vous avez les élèves qui pensent qui ont tout compris. Ce sont en vérité ceux qui n'ont rien compris. Là, je dis, vous posez les questions, sans rancune, hein, mais bon, je suis vice-personne, grâce à Shalom. C'est-à-dire, t'as des gens, à peine tu commences à parler, ils croient qu'ils ont tout compris, ils commencent directement à vouloir l'emplacer. D'accord? Bon. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de mon élève qui veut comprendre. Alors, c'est intéressant, parce que l'élève, s'il fait appel à un maître, c'est parce qu'il n'est pas capable, par ses propres moyens, d'arriver à comprendre ce concept. Parce que s'il était capable de comprendre par ses propres moyens, il n'a pas besoin de maître. Pourquoi il fait appel à un maître? Il fait appel à un maître parce que le maître est plus haut que lui. Donc, comme le maître est plus haut que lui, donc, l'élève fait appel au maître pour que le maître va l'aider. Maintenant, le problème, c'est que, si le maître va uniquement descendre le niveau de l'élève pour rester au même niveau que l'élève, dans ce cas-là, on n'a rien gagné. Parce que l'élève, il était là, le maître descend à son niveau, on reste là. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Donc le but, c'est quoi? Le but, c'est que l'élève s'élève au niveau du maître. Ok? Bon. Maintenant, quelle attitude l'élève doit avoir par rapport à son maître? Et je vous pouvez appliquer ça dans toute la vie. Quelle attitude l'élève doit avoir par rapport à son maître? Quelle attitude? Est-ce qu'il doit avoir une attitude d'élévation, de se sentir élevé? Est-ce qu'il doit avoir une attitude de soumission? Est-ce qu'il doit avoir une attitude de réflexion? Comment l'élève doit se sentir devant son maître? Vous comprenez ma question? Ça veut dire, l'élève, concrètement, voilà, il arrive devant son maître. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit d'abord se sentir la soumission? Est-ce qu'il doit faire travailler surtout son cerveau? Est-ce qu'il doit faire travailler son cœur? Comment ça fonctionne? Eh ben, nous allons trouver trois étapes. N'importe quel élève pour n'importe quel maître. Dès qu'il y a une notion d'élève et de maître. Même dans les affaires. Même, par exemple, un élève qui va prendre un métier. Il va aller chez un maître. Pourquoi il va aller chez un maître?
Pour apprendre.
Parce qu'il connaît pas. Donc il faut passer par trois étapes. Quelle est la première étape? La première étape, ce que nous dit la Gemara dans le traité Shabbat, page référence numéro 4. Talmid Racham chez Yoshev le Finerabo. Un Talmid Racham qui se tient devant son maître. Donc il est là pour apprendre. Siftotav notfot mar. Il doit avoir l'amertume, d'accord, qui se répand de ses lèvres. Ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape, lorsque l'élève vient devant son maître, l'élève doit sentir qu'il met complètement de côté sa personne. Et d'ailleurs, la Gemara a des mots très clairs, juste en dessous, dans la Gemara Brachot. Kli rekan mahazik, un récipient vide peut contenir. Malé eno mahazik, un récipient plein ne peut contenir. C'est très simple. Prenez un enfant. Pourquoi les enfants apprennent très vite? Parce que leur récipient est vide et qu'ils en sont conscients et qu'ils veulent apprendre. Lorsque ton récipient est vide et que tu veux le remplir, il remplit vite. Mais lorsque ton récipient, tu le laisses plein et que même quand tu veux te servir, quelqu'un veut te servir, mais ton récipient, il est plein. Lorsque je verse, qu'est-ce qui se passe avec?
Ça déborde.
Il y a peut-être un petit peu qui va rentrer. Imaginez, le verre, il est plein, je verse. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être un peu qui va rentrer, mais la majorité ira où? Elle ira dehors. C'est exactement ce qui se passe lorsque je viens écouter un cours de Torah, lorsque je vais écouter un maître, mais que je ne mets pas de côté ma personne, je ne mets pas de côté mon vécu, je ne mets pas de côté ce que je pense. Je viens directement avec ce que je pense. Et moi, avec ce que je pense, j'ai envie d'entendre ce que lui, il a à dire. On dit, mais si tu viens d'une lutte comme ça, il n'y a rien qui va rentrer. Peut-être une goutte va rentrer. Parce que tu n'as pas eu la soumission au début du cours. Tu n'as pas eu la soumission au début du développement. Très important, ça. Ça veut dire que lorsque je viens écouter de quelqu'un qui est plus élevé que moi, première étape doit être obligatoirement la soumission. Vous allez me dire peut-être que la soumission, c'est peut-être une étape rigoureuse. C'est vrai que ça a l'air rigoureux, parce que tu dis, attends, le maître d'enseigner, avec le sourire, l'élève, il doit être zen, etc. On verra que les étapes suivantes, dans la suite, il y a effectivement cette étape de ce côté zen, ce côté affectif, etc. Mais pas au début. Pas au début. Au début, tu ne peux pas te permettre. L'élève ne peut pas se permettre d'être là et de vouloir se mettre au niveau du maître. Il n'est pas au niveau du maître. Il n'est pas au niveau du maître. Et s'il pense qu'il est au niveau du maître, en tout cas, il pense être au niveau du maître, eh ben, ça rentrera pas. Ça veut dire que ça va passer à côté. Donc, première étape, nous dit la Gemara, un élève qui est devant son maître, c'est les mots de la Gemara, vous savez, c'est les mots de la Gemara, un élève qui est devant son maître, il doit avoir l'amertume qui se répand de ses lèvres. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, l'amertume qui se répand de ses lèvres.
C'est peut-être plus, pas soumission, c'est peut-être plus annulation, parce que soumission, quelque part, ça veut dire que j'efface complètement même ce que je peux penser, alors qu'en réalité, je peux avoir un sentiment, mais je suis...
Ah, justement. Première étape, j'efface complètement.
Là, il parle d'un érudit en plus.
Ça veut dire que tu comprends.
Oui, je sens,
c'est ça. Donc,
en plus, on parle d'un érudit. Ça veut dire,
c'est pour ça.
Tu viens à un cours aujourd'hui, t'as déjà 35, 40, 50 ans, t'as déjà un certain âge, 60 ans, 70 ans, un certain âge. Donc quand t'as quelqu'un qui est en train de parler, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore aujourd'hui? Donc tu l'écoutes, il te dit un truc, et tout de suite, ton cerveau, il réfléchit, il dit, attends, il a dit ça, mais moi, je pense ça, tu vois. Tout de suite, c'est normal. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Là, la Torah te dit, si tu vas apprendre, c'est pas comme ça qu'on apprend. Si tu vas apprendre, la première étape, quand tu écoutes un sujet, c'est d'abord te taire. Et pas seulement te taire extérieurement, te taire intérieurement. Ça veut dire mettre de côté tout ce que tu connais, vider ton verre, et dire maintenant je vais écouter quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connais pas.
Oui, non,
pas. Et attendez,
j'ai pas fini de parler. Je ne peux pas adhérer à ce que vous dites.
J'ai compris, mais ça c'est après qu'on n'adhère pas.
Pour ça aussi.
D'accord. Ça veut dire d'abord, ça veut dire, non mais attendez, c'est ça,
première étape.
Je ne viens pas pour dire que ce que je vais écouter, je vais essayer de le faire correspondre à ce que je connais. Vous comprenez? C'est très souvent ce qui arrive. C'est-à-dire, moi j'ai un vécu, et j'ai envie que le cours que j'entends corresponde à ce que je connais.
Exactement.
Et lorsque le cours ne correspond pas à ce que je connais, ce que je pense, tu dis, non mais attends, c'est pas comme ça. On dit, mais ça marche pas comme ça. Parce que là, tu essayes de faire correspondre ce que tu connais,
la connaissance.
D'accord? Le cours à ce que tu connais. Donc là, ce qui se passe, c'est que ton verre, tu l'as laissé plein. Si ton verre, il est plein, ça rentre pas. Ça peut pas rentrer. C'est pas comme ça qu'on apprend. Regardez comment un enfant apprend. Regardez le regard de l'enfant, comment il apprend.
C'est une éponge.
C'est une éponge. Pourquoi c'est une éponge? Parce qu'il est conscient qu'il est vide. Comme il est conscient qu'il est vide, il apprend tout. Mais malheureusement, nous, on grandit, on devient des ânes, d'accord? En vérité, voyez-nous ce qui se passe, c'est que nous, on fait un arrêt sur image. T'arrêtes, je sais pas à quel âge on arrête. 14, 15, 16, 17, 18 ans, je sais pas à quel âge on arrête. Et à un moment, tu dis, bon, voilà, maintenant je suis bien, maintenant je suis intelligent, tu vois. Maintenant, je suis calé. Vas-y, maintenant, viens bouger maintenant. C'est-à-dire, maintenant, même, tu écoutes un truc, tu dis, bon, attends, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il va me déstabiliser. Moi, je connais déjà. Tu comprends? Ah, on connaît le truc Pessard, qui se le racontait encore. On connaît déjà. C'est une petite voix au fond qui te dit ça. Et là, il y a un effort à faire de dire, attends, j'écoute quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je suis pas venu pour écouter ce que je connais déjà, parce que sinon, pourquoi je suis venu? Je suis pas venu pour manger des chips. D'accord? Je suis venu pour écouter quelque chose de nouveau. Donc si je suis venu pour écouter quelque chose de nouveau, il faut que ce soit nouveau. Si je veux maintenant faire